Charlie Head.
Vous n'osez pas aller vers les autres ? Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile ? Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Alors aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel pour notre bien-être physique et mental, sortir de la sédentarité au quotidien, car il est si facile de céder à la tentation des écrans et du canapé, même si en réalité on enregistre cet épisode, on est sur des canapés. Nous sommes à Genève aujourd'hui avec Alexandre Dana, une fois n'est pas coutume, car que ce soit au travail ou à la maison, on passe beaucoup d'heures immobiles et cela peut se répercuter tant sur notre santé physique qu'émotionnelle que psychique. Le docteur Salman rappelait dans un récent podcast de Métamorphose que seulement 9% des Français font plus de 30 minutes de sport par jour. Et la marche est le meilleur remède pour l'homme, nous disait Hippocrate, il y a déjà 2500 ans. Et les Anglais, j'ai trouvé ça amusant, Alexandre, on va rebondir là-dessus, ont une expression qui dit « sitting is the new smoking ». J'ai trouvé ça pas mal, donc c'est vraiment être assis est le nouveau tabagisme. Alors comment se motiver pour bouger au quotidien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Alexandre Dana dans notre conversation du Scarabée. Salut Alex.
Salut Anne, je suis super content d'enregistrer avec toi sur ce thème qui me passionne, comme tu le sais. Et d'ailleurs, tiens, je commence avec une anecdote. Moi, je crois que la sédentarité, ça tue nos relations et que le mouvement, au contraire, peut donner lieu à de magnifiques relations. Et nous, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Anne ? On s'est rencontrés une première fois dans un café, donc en position assise. « Sitting is the new smoking », disent les Anglais. Mais juste après, si tu te souviens, notre deuxième rencontre, on s'est vu, non pas à Paris, mais
au bord de la mer,
sur une plage. Et nous étions en mouvement.
Oui, on les allait se baigner.
On allait se baigner. Ouais. Et je suis assez convaincu que qualité de relation, notre amitié, notre envie de faire des projets ensemble, elle a été favorisée par le mouvement. Et donc, c'est une belle manière d'introduire ce sujet très vaste. Je dis tout de suite aux personnes qui écoutent, je ne sais pas si on va réussir à tout couvrir, mais on va essayer.
Alors, comment tu t'y es intéressé, tiens, toi d'ailleurs ? Parce que c'est un sujet que tu connais mieux que moi, parce que tu t'y intéresses de très près.
Comment je m'y suis intéressé ? Durant le Covid. Moi, mon déclic s'est fait durant le Covid. On n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus le droit de bouger. Enfin, ça a été une période qui, je pense, laisse encore des traces aujourd'hui. C'est à ce moment-là que la culture du télétravail a explosé. Or, la culture du travail se traduit aujourd'hui majoritairement par plus de sédentarité. On reste chez soi, on n'a même plus à sortir de chez soi pour aller travailler. Et moi, durant le Covid, j'ai commencé à ressentir un mal-être dans mon corps. J'ai commencé à ressentir mon besoin de bouger, de devenir nomade. Et ça a été un mal pour un bien, puisque via cette période de Covid, j'ai compris que cela faisait maintenant 5, 6, 7 ans, 8 ans que j'étais devenu immobile, que je ne travaillais plus. J'avais créé mon entreprise, Live Mentor, avec un ordinateur. Et je l'avais développé durant toutes ces années, assis, devant un ordinateur et j'étais en train d'en payer le prix physique et mental très fort.
On en a déjà parlé dans un épisode, mais c'est cette vision de l'immobilité du film Wall-E, ouais. Où on les voit en fait, qui bougent avec des chaises roulantes. Ils n'ont pas de problème de handicap, mais ils sont devenus tellement obèses. Ils ne mangent, voilà, ils mangent, tout vient à eux finalement. Et voilà, ils sont dans une sédentarité terrible. C'est un peu ce qui nous guette. Peut-être revenir sur quelques chiffres pour introduire cette émission. On en passe quelques-uns en revue tous les deux. Alors, le premier peut-être, qui sont édifiants. Selon l'OMS, la sédentarité est associée à plusieurs maladies chroniques. Ça, on va revenir sur les répercussions. Donc, évidemment, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, le diabète de type 2, le cancer. Et 38% des adultes passent plus de 8 heures dans un comportement sédentaire. Alors, qu'est-ce qu'un comportement sédentaire ? On va le voir. Avec une proportion qui est plus élevée chez les adultes les plus jeunes. C'est comme si, en fait, on se disait « bon, ben, on a le temps, on est encore jeune et c'est pas très grave ». Et qui avait une conscience peut-être plus aiguë chez les plus âgés, c'est-à-dire les 45-64 ans, et plus évidemment qu'il fallait bouger.
Oui, et sur les plus jeunes, il y a évidemment dans les différents facteurs le rôle des écrans, des technologies, qui sont majoritairement utilisées par les plus jeunes que par les plus âgés. Et aujourd'hui, les médecins en charge des enfants tirent la sonnette d'alarme. On voit de plus en plus d'enfants qui développent le goût de la marche plus tard qu'avant, le goût de la course plus tard qu'avant, qui n'arrivent plus à faire des sauts à cloche-pied, par exemple, parce qu'ils passent toute leur journée en sédentaire.
Ça semble fou. Hein.
Ça semble fou et là, on dévie un peu de la sédentarité, mais les médecins constatent aussi un retard dans la parole des enfants qui parlent beaucoup plus tard que l'âge normal parce qu'ils passent trop de temps à regarder des écrans.
D'ailleurs, on parle en France d'interdire les écrans au moins de 3 ans. Moi, ça me paraît fou qu'il y ait des enfants de toute façon déjà qui aient accès à des écrans avant cet âge-là, voire même plus tard.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que la sédentarité ? Comment est-ce que toi, tu la définirais ? Selon une définition un peu officielle, on est sédentaire quand on passe plus de 7 heures assis par jour. Évidemment, on ne compte pas les heures de sommeil, qui ne comptent pas dans la sédentarité. On a véritablement besoin du sommeil. C'est 7 heures assis. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis quand même posé la question, parce que quand on a les métiers qu'on a, on passe du temps, comme tu le disais à l'instant, devant nos écrans.
Mais c'est tout le sujet. On est passé en moins d'un siècle d'une majorité de la population active qui était agriculteur dans les champs. Donc dans les champs, vous n'êtes pas sédentaire, vous êtes constamment en train de bouger, de marcher d'un point A à un point B. Et en plus de marcher d'un point A à un point B, vous vous baissez, vous rampez, vous surélevez, vous tirez des choses, vous poussez des choses. Donc il y a une diversité de mouvements qui est fantastique. Ça ne veut pas dire que le métier d'agriculteur est un métier bon pour la santé dans tous les cas. Évidemment, si vous êtes agriculteur et que vous avez, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui, des conditions financières très compliquées et que vous avez besoin de vous tuer à la tâche.
Il y a une pénibilité aussi.
Il y a une pénibilité et le mouvement devient horrible. Mais le métier est intrinsèquement non sédentaire. Puis on est passé à des métiers industriels, avec pareil les mêmes dérives qu'on peut imaginer en termes de pénibilité, mais c'était aussi des métiers non sédentaires à des métiers de bureau, des métiers de service, des métiers intellectuels. Et donc aujourd'hui en France, c'est plus de 75% de la population qui exerce un métier sédentaire, donc un métier qui se fait sur une chaise. Et là, on comprend le problème. Et Anthony Berthoud, que tu as reçu chez Métamorphose plusieurs fois, qui est un expert français en micronutrition, en santé de manière générale, m'a enseigné le terme de sportif sédentaire.
Oui, alors ça, c'est ce que j'ai découvert avec lui. Il en a parlé dans un épisode, absolument. Oui.
Donc, tu peux faire du sport toutes les semaines, voire même tous les jours, mais être quand même sédentaire.
Oui, alors je me suis aperçu que j'étais peut-être un peu dans ce cas-là, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis très sportive et en même temps, comme je passe beaucoup d'heures assise sur ma chaise pour le travail, je suis quand même un peu dans ce cas de figure.
Mais tu marches. À ma connaissance, tu marches quand même beaucoup. Tu essayes de mettre ça au cœur de tes journées et c'est la première réponse, en fait. Une fois qu'on a mis le doigt sur cette notion de sportif sédentaire et qu'on a compris que la sédentarité, c'était un problème qui nécessitait d'être en mouvement le plus longtemps possible au cours de la journée, la marche est le meilleur des remèdes.
Alors, on va revenir beaucoup sur la marche. On va revenir sur les solutions pour comment remettre du mouvement dans sa vie. On va discuter de tout ça aujourd'hui, tous les deux. Et puis, on va parler de nos pratiques. Alors, restez bien avec nous si vous avez envie de savoir comment être peut-être moins sédentaire dans votre quotidien. On va peut-être faire un balayer un petit peu à quoi ça ressemble finalement cette sédentarité au travail, mais aussi à la maison, mais aussi peut-être pour les enfants, parce que finalement, ça touche beaucoup de champs.
Oui, alors si on fait la journée d'un sédentaire, par exemple, on pourrait faire ce petit scénario ensemble.
Oui.
La journée d'un sédentaire ultime, je me réveille.
Sédentaire ultime, j'aime bien le mot.
Sédentaire ultime. Je me réveille, j'ai envie de prendre mon petit déjeuner. Bah, j'ouvre mon frigo et j'ai accès à des yaourts, de la nourriture X ou Y qui m'a été livrée la veille. Je n'ai pas eu besoin d'aller la chercher moi-même. Et puis, je travaille depuis chez moi, donc j'allume mon ordinateur et je passe de la position allongée de mon lit à la position assise de ma chaise. Ou alors, je prends la voiture, position assise, pour aller à mon travail. Je m'assois, je commence à travailler. J'ai pris l'ascenseur pour aller au deuxième étage de l'immeuble dans lequel je travaille. Je déjeune sur mon lieu de travail. Je rentre chez moi en voiture ou alors j'ai travaillé depuis chez moi, je passe de mon bureau à mon salon. Je me dis que j'ai bien travaillé, donc c'est le moment d'avoir un peu de loisirs. Et là, je découvre le fantastique monde des loisirs sédentaires qui n'existaient pas il y a 50 ans, 60 ans. Ça peut être la télévision, ça peut être les consoles de jeux, ça peut être les jeux sur téléphone portable.
Ça peut être tout simplement de scroller sur un écran sur les réseaux sociaux.
Scroller sur un écran avec les réseaux sociaux qui sont fantastiques pour nous prendre notre attention.
En moyenne, là, les adultes, j'ai récupéré les chiffres, hein, je crois que c'est 3 heures par jour sur nos écrans. Hein,
En dehors du travail. Et puis après cette journée de sédentarité, je vais me coucher. Donc voilà, ça c'est la dimension que peut prendre la sédentarité. Et puis tu mentionnais les enfants, effectivement, ou les amis. Mes amis viennent me voir le soir pour une soirée, et le moment qu'on va vivre ensemble est un moment sédentaire. On est assis autour d'une table pour manger, boire, discuter. Avec mes enfants, je peux aussi tomber dans les activités sédentaires. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on peut justement, je trouve ça qui est fantastique, une fois qu'on a fait le panorama de cette journée, on peut se dire comment je mets du mouvement partout, dans mon travail, avec mes amis, avec moi-même, avec ma famille. Et là, il y a plein de solutions qu'on peut trouver.
Oui, parce qu'on s'aperçoit quand on creuse ce sujet que, évidemment, c'est une question aussi hormonale et puis de tout ce qui est libéré dans notre corps. C'est-à-dire que moins je bouge, moins je libère en fait des hormones type oxytocine, dopamine, hormones du bonheur. Et moins je suis dans le mouvement, moins je vais dans le mouvement. Donc il y a vraiment peut-être d'abord une conscientisation. Ce serait intéressant un jour qu'on ait, peut-être toi tu le feras Alexandre, un espèce de questionnaire où je peux faire le point où j'en suis dans ma sédentarité. Est-ce que ça existe ?
Pas à ma connaissance, mais c'est une super idée. Écoute, j'accepte le défi d'essayer de le créer. Tu me fileras un coup de pouce. Non, c'est une super idée.
Alors moi, j'adore les tests. Parce que je trouve que les tests, alors parfois ça peut être anecdotique, parfois très approfondi. On sait que les tests chez les psys, ils ne sont pas accessibles au grand public et c'est très bien parce que ça doit être fait avec un professionnel. Mais je trouve qu'un test nous permet déjà d'avoir cette prise de conscience. Sans... L'idée, ce n'est pas de nous faire culpabiliser parce que voilà, moi, quand j'ai pris conscience que j'étais une sportive sédentaire, ça m'a foutu un peu les boules quand même. Je me suis dit zut, je ne pensais pas. Mais en même temps, ces tests permettent de se dire, tiens, dans quelle catégorie je me place, effectivement, et de se dire, est-ce que j'ai envie de changer de routine ?
Je pense que c'est une super idée. C'est effectivement avoir un test qui t'interroge sur quel est ton rapport à la sédentarité dans tes achats, ta consommation. Quel est ton rapport à la sédentarité dans ton travail ? Quel est ton rapport à la sédentarité avec ta famille ? Quel est ton rapport à la sédentarité dans les moments que tu passes entre amis ? Peut vraiment servir à visualiser la situation dans son ensemble et à comprendre, comme tu disais, les liens entre la sédentarité et certains phénomènes. Tu as parlé de la libération de certaines hormones ou de la non-libération, mais on peut aussi évoquer les liens entre sédentarité et sommeil. L'explosion qu'on observe depuis 15 ans en France et dans d'autres pays des insomnies commence à être tout à fait associée, prouvée à la sédentarité. Si mon corps ne bouge pas, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'endormir. Les liens entre sédentarité et alimentation sont aussi attestés. Je vais avoir tendance à rechercher le sucre, à rechercher l'excitation, à rechercher la nourriture doudou dont on avait parlé dans un autre épisode des Conversations du Scarabée, si je suis toute la journée assis devant mon écran.
Oui, on avait fait un super épisode d'ailleurs sur les pratiques corporelles et tout ça, donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de se remettre en mouvement, peut-être de retomber sur cet épisode, sur comment on peut remettre du mouvement, comme tu le dis très bien, dans toutes nos activités. Moi, je vois que, par exemple, on va parler un peu de nos pratiques, hein, mais des choses très simples. À Paris, quand on va enregistrer des épisodes de podcast de Métamorphose, on ne va pas toujours dans le même studio d'enregistrement et j'ai pris pour principe d'y aller à pied. Donc l'autre fois, j'ai traversé Paris, ça m'a mis 1h15 pour revenir du studio. J'étais avec quelqu'un de l'équipe de Métamorphose et c'était sympa parce qu'en fait, on a fait une réunion, une petite réunion d'équipe, ce que toi, tu fais pas mal, tant que tu n'emmènes pas les gens trop au cimetière du Père Lachaise.
Tout à fait, j'emmène. J'ai la chance d'avoir des bureaux à Paris. Près de ces bureaux, il y a le cimetière du Père Lachaise, qui est un très beau cimetière, avec beaucoup de dénivelé. Et j'adore faire des réunions là-bas. Et je trouve que c'est l'exemple que tu viens de donner, la réunion en marchant, c'est un des premières solutions concrètes, faciles, activables, à la portée de presque tout le monde, qu'il faut envisager.
Alors, il se trouve que là, dans mon cas, on était en train de rentrer parce qu'on avait terminé. Donc, ça, c'était quelque chose de très naturel. Ce qui peut l'être moins, c'est de dire, de proposer à quelqu'un, un salarié ou quelqu'un avec qui tu travailles, en disant, est-ce que si on faisait cette réunion, en allant se balader, est-ce que les gens sont ouverts à ça? Quand tu l'as testé, quelle réaction tu as eu, toi, en face? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Est-ce que c'est une seule personne?
Alors, moi, je propose depuis 2 ans à tout le monde. Pas de négociation possible. J'adore ça. Les réactions sont plutôt positives.
Quand tu es avec une seule personne ?
Alors, majoritairement, c'est des réunions avec une seule personne.
Oui.
Mais même à plusieurs, les réactions sont plutôt positives. J'ai peut-être eu une ou deux fois des sentiments mitigés. Mais si tu proposes un endroit agréable, autre chose qu'une avenue bombée avec des klaxons de partout.
Un cimetière, ça peut faire peur, hein, certains. Un endroit agréable.
J'ai eu cette réaction, effectivement. J'ai eu une personne qui avait peur du cimetière, qui trouvait ça bizarre pour une première rencontre. Mais bon, encore une fois, le cimetière du Père Lachaise, si vous êtes déjà allé là-bas, vous savez que c'est un endroit magnifique. Et si vous n'y êtes pas allé, je vous recommande absolument cette visite où il y a la tombe de Jim Morrison, le chanteur.
C'est ce que j'ai dit, peut-être une fois, on ira enregistrer un épisode de Métamorphose près de la tombe de Jim Morrison.
Non, mais c'est fantastique. C'est parce que tu as l'impression de plus du tout être dans Paris. Et puis, surtout, moi, j'ai des arguments à faire valoir quand je propose ça aux personnes. J'ai l'argument... On ne va pas être sédentaire, tu vas faire tes 10 000 pas par jour, c'est très bon pour ta santé physique. J'ai l'argument surtout de la créativité. C'est prouvé par plusieurs cardiologues. La marche active le bouton on de certaines parties de notre cerveau, nous permet d'avoir de meilleures idées, d'être plus créatif. Dès que je me mets en position assise, bouton off. Et donc, je propose à tous mes nouveaux interlocuteurs, tous mes nouveaux partenaires de marche de faire l'expérience. Et généralement, une fois qu'ils ont testé une fois, ils adorent, ils ne reviennent pas en arrière.
Je me suis posé la question en travaillant, en réfléchissant un peu à ce sujet avant qu'on se rencontre. Est-ce qu'il faut le faire avec un objectif de performance ou rester quand même dans une notion de plaisir? Parce que sinon, on peut être toujours dans cette idée d'utilité, d'efficacité, etc.
C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je crois qu'effectivement, il y a une dérive productiviste
autour du mouvement.
Autour du mouvement et autour de la santé de manière générale, qui est incarnée par le sujet par tous les outils de data, les montres, les bracelets qui vont traquer ton sommeil, l'application iPhone ou Android qui va mesurer le nombre de pas que tu fais par jour, et il y a une dérive potentielle ici qui est de se rajouter du stress, de se rajouter de l'anxiété, ah je n'ai pas fait mes 10 000 pas par jour, etc. De la même manière que chez les sportifs, il y a toute une culture que moi je combats d'optimisation de l'efficacité de l'entraînement en temps limité, avec beaucoup de contenu, notamment vidéo sur YouTube, comment faire le meilleur entraînement possible en 30 minutes. Moi, j'essaye de regarder la sédentarité sous toutes ses formes, et notamment sous l'angle spirituel, quelle est la magie du mouvement ? En quoi c'est bon de juste s'abandonner au mouvement, de s'abandonner à une exploration de son corps le plus longtemps possible ? Et en fait, tu le ressens à la fin de ta journée, si tu as, indépendamment de n'importe quelle forme de tracker, tu sais si tu as été en mouvement ou pas. Maintenant, le tracker peut servir d'électrochoc au début. Par exemple, mon père, métier sédentaire, toute sa vie. Psychanalyste, toute sa vie, en position assise. Il y a quelques mois, je t'en avais parlé, on a eu un moment assez fort à deux où je suis venu pour lui proposer une séance de mouvement justement avec tout un tas d'exercices, de souplesse, de renforcement musculaire. Et au cours de cette séance, je lui ai dit « Combien de pas tu marches par jour ?» Il n'en avait aucune idée, on a regardé son téléphone. 2000 pas par jour en moyenne. C'est très très peu. Et donc là, ça a été utile pour lui de mettre le doigt sur cet indicateur à un moment T. Après, est-ce que c'est utile qu'il le regarde tous les jours, chaque semaine ? J'en suis pas certain. Je l'invite, je lui partage plus, par exemple, les moments qu'on a vécu, toi et moi, où on part travailler 3, 4, 5 jours, tout en faisant des randonnées.
Oui.
Et là, on n'a pas d'objectif en se levant le matin de marcher forcément 10 000 pas. On ne traque pas le nombre de pas. On sait juste qu'on va essayer de diviser notre journée entre du travail et des randonnées.
Ouais, plaisir.
Plaisir.
Ouais, c'est ça. Parce que le cerveau, il y a ce côté à la fois fake it until you make it, c'est-à-dire tu vas le mimer et finalement le cerveau va croire que. Et en même temps, on sait très bien dans d'autres études que le cerveau, on ne peut pas trop le leurrer, et les émotions et les sentiments. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Là, j'en ai parlé avec le docteur Salman il n'y a pas longtemps. Hein, je l'ai dit déjà dans deux émissions, vous allez trouver que je me répète, mais entre une population de retraités qui simulent des loisirs, enfin ils simulent pas, ils font du golf, ils font des mots croisés, ils sont occupés. Des retraités qui ne bougent pas du canapé et des retraités qui ne sont pas retraités, qui bossent encore, qui seraient en âge de retraite mais qui ont peut-être 80 ans, 70, 75, jusqu'à 90 et que sais-je encore, qui sont encore vraiment avec un projet actif mais qui n'est pas juste du divertissement, eh bien, leurs scores sur leur santé sont bien meilleurs que les deux autres populations qui ont des scores quasiment équivalents. C'est-à-dire que les gens qui ne bougent pas du canapé et ceux qui s'occupent avec du divertissement ont à peu près les mêmes résultats. Ça veut dire que moi, je trouve que ça repose cette question du sens, c'est-à-dire que le mouvement, mais si on n'est que dans la performance et qu'on n'est pas dans le plaisir et dans le sens que je lui donne pour moi dans mon quotidien, on passe un peu à côté de notre cible.
Mais tu m'avais donné un terme que j'ai oublié durant notre conversation sur l'alimentation qui décrit l'obsession de l'alimentation parfaite.
L'orthorexie.
Merci beaucoup. Et je ne sais pas si un terme similaire existe sur le mouvement, l'obsession du mouvement parfait. Sûrement qu'il existe, en tout cas c'est un phénomène que moi je constate. Étant assez sportif,
oui.
Je me retrouve parfois dans des conversations avec d'autres sportifs qui sont obsessionnels de leur sport
oui.
Et qui vont me dire... Le cardio, qui vont me dire le renforcement musculaire, ou qui vont me dire les grands écarts. Alors qu'en fait, pour lutter contre la sédentarité, et ça, toutes les études le confirment, c'est la diversité qui compte. C'est de faire le maximum de choses différentes. De faire un peu de marche, un peu de vélo, un peu de tirage de poids, un peu d'extension, un peu d'écart, d'essayer d'explorer le mouvement sous toutes ses formes. Donc tu vois, souvent... moi, on me fait la réflexion en réunion, mais Alexandre, tu es en train de faire quoi avec ta jambe ? Parce que parfois, je m'étire.
Oui, et puis quand on commence nos randonnées, on va commencer par l'étirement, par une séance de yoga.
On va commencer par l'étirement, et puis On va essayer, en fait, à tout moment de se laisser une liberté corporelle. Tu peux, par exemple, on n'en a pas mentionné, mais travailler debout, avoir des bureaux assis debout pour pas toujours être en position assise. Mmh. Tu peux avoir certaines grosses balles sur lesquelles tu t'assois, sur lesquelles tu étires ta jambe, sur lesquelles tu étires ton dos. Il y a de plus en plus d'ailleurs de kinés qui proposent des exercices de mouvement à faire au travail. Et dans ces exercices, en fait, on cherche principalement la diversité. Mmh. Et on n'a pas encore mentionné nos meilleurs maîtres qui sont les enfants. La meilleure manière de comprendre l'antisédentarité, c'est de regarder un bébé, de regarder un enfant.
Ouais, les petits sont formidables pour ça. Ouais.
Ils font tout.
Oui.
Pour tout. Ils se roulent sur la tête, ils se tiennent sur un bras, ils font du cloche-pied. Ils sont constamment en train de bouger dans tous les sens.
Mais tu vois, quand tu dis les bébés, je pense que c'est important aussi de se dire que nous avons tous été un bébé, un petit. Et donc, de se relier à cette énergie du jeu qu'il y a en nous. D'ailleurs, quand on a fait notre randonnée avec Christian Junot, il te faisait remarquer, comme certains peut-être dans ton équipe, disent « Tiens, t'es en train de faire des étirements, mais toi, tu nous as fait jouer. » On a fait des headstands à ce moment-là, on a essayé de se tenir
des équilibres sur la tête.
Des équilibres sur la tête. Parce que ça fait, voilà, donc c'est à la fois un étirement, mais à la fois on était dans le jeu, on s'est amusé, on était dans le plaisir. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut réintroduire ça? Je discutais avec quelqu'un qui travaillait avec moi au sein de Métamorphose, que j'aime beaucoup, qui est un ami, Folco Chevalier, qui me disait, je pense pas trahir de secret en disant ça, qui me disait qu'aujourd'hui, il commençait toutes ses journées en dansant. Et ça fait le lien avec un autre sujet des conversations du Scarabée, qui est la joie. Mais quand on commence sa journée avec... Mais même si c'est simplement 10 minutes avec un peu de musique, on danse à fond, on fait des mouvements, voilà, on libère quelque chose qui est d'un autre niveau.
100%. Absolument. Et toutes les activités de danse libre, d'ecstatic dance, de danse contact...
Oui, la danse des 5 rythmes, le Nia...
Exactement. Sont, j'ai l'impression, de plus en plus populaires ces 5-10 dernières années, répondent à ça, répondent à ce besoin, quoi. Je me lasse, je fonce, et je suis certain que ça permet de se maintenir en très très bonne santé. Et là encore, on peut faire un parallèle avec le monde du sport. Si on prend la danse classique, quand on voit le nombre de danseurs classiques qui ont de l'arthrose à 35 ans, 38 ans, mais on peut encore une fois interroger, enfin, ou souligner la différence entre mouvement et sport. Moi, pendant trop longtemps, je me suis coupé du mouvement en me disant « tu n'as pas trouvé ton sport, tu n'as pas trouvé ta pratique ». Et je faisais vraiment dans ma tête la différence entre les gens comme moi, non sportifs, et les super sportifs qui devaient être en excellente santé. Mais en fait, la réalité est très différente. Il vaut mieux se poser la question « sédentarité versus mouvement ». Et si je suis dans le monde du mouvement, le jeu est quelque chose de fantastique. Prenons vraiment le sujet des moments entre amis. Qu'est-ce que je crée comme moment avec mes amis? Est-ce que je crée des moments sédentaires ou est-ce que je crée des moments de jeu
ou de dynamisme?
De dynamisme, des cache-cache, des courses, des pratiques de mobilité. La liste est infinie.
Et puis moi, j'ai envie aussi d'ajouter quelque chose. Je discutais avec mes enfants récemment qui me disaient « Ah, mais non, mais jamais, moi je ferai... » Ils avaient une amie qui avait fait un semi-marathon et qui disait « Ah non, mais moi, c'est pas pour moi, c'est des athlètes. » Et donc, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'expérience, y compris moi. Donc moi, j'étais sportive jeune et ensuite, j'ai fumé pendant presque 15 ans. Oui, j'ai fumé pendant presque 15 ans. Chaque fois que je le dis au sein de Métamorphose, les gens disent « Quoi, toi, Anne Guéquier ?» On a une image de la fille saine, sportive, voilà, c'est impossible que tu aies fumé. Bah oui, j'ai fumé pendant 15 ans. 15 ans, c'est beaucoup quand même. Oui. Et j'ai fait des marathons et du triathlon plus tard. Donc ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu passer pour une cause perdue quand on fume beaucoup comme ça au niveau pulmonaire. Bah, forcément, on a plus de difficultés respiratoires. Mais non, tout n'est pas perdu. En fait, le mouvement, c'est quelque chose, la répétition... la volonté, l'envie, on peut s'y mettre. Alors évidemment que du jour au lendemain, on ne va pas se mettre à courir un marathon comme ça. Mais l'entraînement, la joie qu'on peut trouver en se mettant finalement à une nouvelle activité, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et c'est payant. Parce que peut-être, oui, on ne courra pas le marathon comme de grands athlètes en moins de 2h30. Mais moi, j'ai fait des scores tout à fait honorables au marathon, idem pour les triathlons. Je n'étais pas la dernière. Donc, il faut vraiment se dire, c'est possible. Voilà. Alors, peut-être que moi, je n'avais pas une vision de moi non sportive parce que j'avais été très sportive avant de me mettre à fumer. Mais j'ai connu des gens qui avaient une image, et là, on touche aux croyances limitantes, d'eux-mêmes en étant... J'ai toujours été un peu en surpoids. Dans ma famille, on m'a toujours dit que j'étais la personne qui n'était pas sportive. Je ne suis pas quelqu'un de sportif. Eh ben, je crois que c'est faux. On peut le devenir. D'ailleurs, toi, tu as un exemple aussi où tu disais avant, je croyais que je n'étais pas sportif et tu es devenu un athlète. Donc, c'est ça qui est magnifique.
Non, mais c'est la, cette croyance-là sur notre corps, notre capacité à être en mouvement, elle est terrible quand on est piégé dedans. Elle peut vraiment être terrible. Alors que, comme tu le dis, il n'y a jamais d'âge, il n'y a jamais trop d'âge avancé pour s'y remettre. Il suffit de taper, moi j'adore faire ça sur YouTube, sur Google, grand-mère yoga. Mais vous allez tomber sur des vidéos incroyables de mamies qui ont commencé le yoga à 75 ans, 80 ans, et qui 10 ans plus tard, 90 balais, font des postures mais exceptionnelles, des grands écarts, des choses mais géniales. D'ailleurs, il est prouvé que le yin yoga, donc une certaine forme de yoga, améliore nos articulations, nos tendons, notre dotation en collagène. Donc, c'est vraiment ça, moi j'en suis mais complètement persuadé. Il faut s'y mettre, il faut explorer, il faut chercher de la diversité de mouvements le plus possible dans son quotidien. Et on est surpris par les résultats. Et on est surpris par les ressentis dans son corps. Moi, ça va sembler peut-être très bizarre ce que je vais dire, mais les moments qui aujourd'hui me donnent le plus de plaisir sont certaines pratiques de mouvement que j'opère seul ou à plusieurs et où je vais avoir des ressentis corporels, des choses qui montent, qui sont pas loin d'une sorte d'état de transe. Et ça, je me le donne avec mon corps.
Parce que tu tombes dans un flow, en fait, quelque part.
Je tombe dans un flow. Et je sais que toi, tu pratiques depuis longtemps le Wu Tao. J'ai eu l'occasion de te voir pratiquer en haut d'une montagne, lors d'une randonnée. Je trouve que c'est un art. Parce que c'est un sport ou un art, le Wu Tao. Je ne sais jamais quel mot mettre dessus.
On parle d'un art corporel, oui.
Un art corporel qui me semble être très, très aligné avec ce qu'on est en train de partager ici. Comment ça a changé ton rapport avec la sédentarité de te mettre au Wu Tao, par exemple?
Mais je me suis aperçue que j'étais dans des sports qui étaient quand même assez terriens, assez cardio. Et j'ai découvert justement ce que tu disais un peu tout à l'heure, que le mouvement, en fait, il n'est pas que dans une seule direction. Et j'avais tendance à être un peu peut-être monomaniaque, à faire des sports d'endurance, parce que justement, j'étais dans une idée peut-être de performance, d'efficacité, en me disant, bah, tiens, si je vais courir une heure, ça y est, c'est fait. Ma dépense énergétique, elle est juste incroyable en une heure de running un peu rapide. Et pour ma journée, c'est bon. Et j'ai découvert avec le Wu Tao d'autres espaces justement corporels et le mouvement à travers un dialogue peut-être beaucoup plus approfondi avec mon corps, puisque en Wu Tao, on tombe dans une forme aussi de flow, d'état peut-être méditatif, mais à travers le mouvement. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir que on peut être dans des pratiques aussi finalement assez cardio, en étant dans des mouvements parfois statiques, où en tout cas les jambes, les pieds ne bougent pas, sont à terre. Et on peut aller dans des choses cardio, tout en étant dans une forme de souplesse, tout en étant dans une forme de présence où on n'échappe pas à soi-même. Donc peut-être l'appel que j'ai envie de faire aussi, c'est de dire il est intéressant de ne pas rester toujours dans les mêmes pratiques. Parce qu'on a tendance, on le sait, hein, en neurosciences, une fois qu'on a des boucles mentales qui sont faites dans notre tête, eh bien, on a tendance à les répéter et à faire toujours la même chose. Et je me mets dedans, hein, moi la première, hein, j'échappe pas à ça. Et donc, avoir nos habitudes, voilà, je vais courir, je vais nager ou je vais faire telle pratique de danse tel jour. Et puis j'ai mon entraînement qui est toujours un peu pareil et j'ai du mal à sortir de ça. Sauf que quand le temps passe, nos corps sont plus forcément... bon, ou en tout cas prennent autant de plaisir à faire les mêmes choses en fonction de l'âge. Je me souviens quand j'étais enceinte de mes enfants, j'ai découvert aussi le mouvement d'une autre manière. Évidemment, quand on est enceinte, de 5, 6, 7 mois, on ne va pas se mettre à faire de la course à pied et un jogging d'une heure à fond la caisse, ce n'est plus le propos. Et c'est intéressant, je trouve en tout cas, de pouvoir danser avec ça, de danser avec le fait qu'on est dans des états de vie différents. Quand j'ai une suractivité au niveau professionnel, bah peut-être que c'est le moment pour faire plus de pratiques de bien-être que du cardio. Parce que je suis déjà en stress maximal et donc je vais remettre un stress quand même dans ma pratique. Je ne sais pas comment tu le vois, toi.
Ce que tu dis résonne très fort avec le dernier livre de Bichente Lizarazu.
Ah oui.
Qui est donc ancien, pour ceux qui l'ignorent, ancien joueur de l'équipe de France de football, champion du monde 98.
Ouais.
Passionné de sport avec un S, sous toutes ses formes. Et qui, toute sa vie, avant sa carrière en équipe de France,
ouais, il adore
pendant,
ça, on le sent, hein.
Après, a toujours pratiqué tout. Le vélo, les sports de combat, le jiu-jitsu brésilien, si je ne dis pas de bêtises. Le surf, évidemment, il est basque. Et qui parle avec beaucoup de justesse de cette merveille. On y a tous accès, on a tous accès à notre corps. De plein de manières différentes, de plein de formes différentes. On a tous des capacités et des incapacités à différents niveaux. Et on peut tous jouer avec ça, danser avec ça. Et peut-être que, je suis en train de me dire, tu vois, en nous écoutant, peut-être que ce qu'on est en train de raconter sur les sensations corporelles, sur les espaces corporels, j'ai beaucoup aimé ce terme, ça peut vous sembler ésotérique, ça peut sembler très, très perché. Je l'entends, si c'est le cas, parce que moi, il y a 10 ans, j'aurais entendu ce discours, j'aurais vraiment passé à côté. Je ne peux qu'inviter tout le monde à aller explorer la danse contact, le Wu Tao, la danse thérapie, les arts du cirque, nager dans un océan, le yoga, d'essayer d'aller au maximum vers des pratiques où il y a plusieurs postures, plusieurs formes de sensations, plusieurs formes de ressentis. Et le travail va se faire.
D'ailleurs, en Wu Tao, les fondateurs du Wu Tao, Paul Charroy et Manu Rislar, ils ont regardé des études en fait, sur le mouvement. Et on voit que dans la pratique du mouvement, des mouvements, on recrée en fait, des connexions neuronales. Donc on recrée de l'intelligence. On va explorer d'autres circuits. Et donc, ce qu'on disait avec la marche est vrai en fait, pour le mouvement en général. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande créativité. Il y a des libérations qui se font. On sait que dans nos corps, et moi, je suis très intéressée aussi par la psychologie biodynamique. J'avais fait une émission à ce sujet qui dit que quand on va aller conscientiser certaines zones corporelles, les habiter quelque part d'une autre manière, et ça, ce sont des psys aussi qui le disent, on va aller défricher en soi de nouvelles zones. Et donc forcément de nouvelles zones qui ont trait à la mémoire, qui ont trait à la créativité, qui ont trait à la joie, qui ont trait à de nouvelles émotions qui peuvent éclore en nous. Et ça, je trouve que c'est intéressant de ne pas voir simplement le mouvement comme je suis trop sédentaire, je vais avoir une maladie. Et on l'a dit au début, on l'a rappelé, hein, diabète cardiovasculaire, enfin, c'est vraiment la sédentarité. C'est vraiment une... je ne sais plus quel professeur, la CHU de Rennes, François Carré, on en parlait hors antenne, dit « la chaise est devenue une addiction qui tue ».
Tout à fait.
Voilà, donc au-delà de cette peur, hein, entre guillemets, de perdre des années de vie, parce que ça peut se compter vraiment en années, hein, liées à la sédentarité, mais si on le voit du côté positif, il y a cette joie retrouvée de découvrir d'autres facettes de soi-même.
Complètement. Il y a se rassurer, se réconforter, se protéger des aléas du futur. Ça, c'est vrai. Tu vois, par exemple, François Carré et d'autres expliquent comment la sédentarité se traduit par un affaiblissement musculaire à plein de niveaux dans notre corps, notamment au niveau des poignets. Parce que, par exemple, c'est assez rare qu'on tire des choses aujourd'hui. Métier sédentaire...
Ouais. On n'attrape plus le pot de confiture de chez la grand-mère, là, tout en haut de l'armoire.
On n'attrape plus le pot de confiture. Si, par exemple, on se fait livrer toutes ses courses, c'est un scénario un peu extrême, hein, mais on ne tire même plus son caddie ou son...
C'est les livreurs qui montent les 7 étages à pied qui sont fit.
C'est les livreurs, exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus de muscles dans les poignets? Eh bien, je suis une personne âgée. À un moment, je fais une chute. Je mets mon poignet face au sol qui est en train d'arriver sur ma tête en pleine vitesse. Et comme je n'ai plus de muscles, mon poignet dérape. Et là, la chute me fait beaucoup plus mal parce qu'elle va, c'est ma tête qui va prendre le choc. Ou ma poitrine, etc. Donc, exemple concret où remettre du mouvement dans sa vie va nous remuscler, va renforcer notre capacité osseuse et donc, in fine, va nous sécuriser. Mais ça, c'est une première partie de l'équation. L'autre partie, c'est effectivement le jeu, le mouvement, les sensations corporelles. Et ça, c'est un plaisir infini.
Donc. Si je reprends le parallèle avec le tabac, puisque je l'évoquais tout à l'heure, maintenant qu'on en parle, en le conscientisant, quand j'ai arrêté de fumer il y a déjà maintenant plus de 20 ans, non seulement j'échappe au fumé-tu, donc ça c'est une vision des choses, j'échappe effectivement peut-être au pire, mais surtout je retrouve d'autres plaisirs, d'autres sensations, le
souffle.
Goût, le souffle, le fait de reprendre le sport. Donc je trouve que c'est ça, quand on quitte la sédentarité, non seulement on échappe à ce qu'on a dit au pire, peut-être, mais en plus... Et c'est là où je trouve qu'il faut aller vers le plaisir. Il y a toute cette joie de cette nouvelle découverte où on revient à l'enfant. Nous sommes en fait ces petits-enfants qui ont tellement envie de jouer, de s'amuser. C'est notre essence même, en fait, d'être vivant.
Et là, il y a un sujet culturel dont il faut parler. C'est pourquoi, en France, certains vont dire aux personnes qui arrêtent de fumer, aux personnes qui arrêtent de boire, « Oh, t'es devenu chiant ». Et j'en parle parce que récemment, je suis tombé sur une vidéo avec un artiste sur un plateau face à une fameuse journaliste. On ne va peut-être pas citer son nom. Il y avait une qui était en interview et cet artiste dit « j'ai arrêté de boire ». Et la première réponse de la journaliste « vous êtes devenu chiant ». Mais en fait, non. En fait, arrêter de boire ou arrêter de fumer va avoir plein d'avantages. Et notamment, quand on prend l'exemple que tu viens de donner, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de joie dans notre vie, beaucoup plus de découvertes. Ce que tu as dit aussi sur les circuits neuronaux est extrêmement intéressant. Moi qui ai la chance de discuter assez régulièrement avec des grands athlètes de cirque et des entraîneurs de très haut niveau, eh bien, ces entraîneurs aujourd'hui sont en train d'opérer une transition. Une transition dans leur enseignement entre l'ancienne méthode qui était « il y a un mouvement à faire, il y a une technique à réaliser, il faut s'entraîner, décomposer cette technique, étape A, étape B, étape C, étape D, et il faut le faire parfaitement. » À une nouvelle approche qui est « bon, acceptons que le mouvement ne soit pas parfait techniquement, acceptons que les pieds ne soient pas pointés de manière exceptionnelle, allons-y en exploration. Créons un peu autour de ce mouvement parce qu'on se rend compte que les circuits neuronaux se créent mieux de cette manière. » Et donc là, c'est assez fantastique de voir justement que même les athlètes de plus haut niveau commencent à comprendre ça aussi. Il y a ce fameux dernier exemple qu'on peut donner là-dessus, c'est ce très grand boxeur Conor McGregor qui a gagné plein de titres. Je crois que son sport exact, c'est le MMA, qui était devenu célèbre pour son travail avec un coach israélien qui s'appelle Ido Portal, qui ne connaissait rien à son art martial, mais l'entraînait au mouvement en se mettant devant lui à 5 mètres et en lui jetant des cartes à jouer. C'est des cartes de poker, quoi. Et donc, du coup, évidemment, si je t'envoie une carte à jouer, c'est très fragile. Enfin, donc, ça ne vole pas droit. Si je te l'envoie vers toi, il y a très peu de chances pour que ça arrive sur toi. Ça va arriver à 3 mètres à droite, 1 mètre au-dessus, en bas. Mais il fallait qu'il s'entraîne à improviser, à être réactif, le boxeur. Et pour lui, ça a été un gain en performance exceptionnel.
Oui, d'ailleurs, peut-être celles et ceux qui nous écoutent, puisque tu parles de boxeurs aussi, je pense aux émissions que j'ai fait avec Enoch et Fa sur comment en fait le mouvement permet aussi une forme de résilience, parce que lui, il avait eu un parcours enfant très difficile, douloureux. Il le raconte très bien dans le dernier épisode qu'on a fait lié à son livre qui est sorti aux éditions Erol. Et il y a vraiment cette idée de comment, finalement, contre toute attente, parfois, parce qu'on se dit, je suis peut-être pas sportif, ou je suis trop âgée, ou ceci, ou je suis déjà en surpoids, etc. Et comment, alors lui, il n'était pas en surpoids, mais comment le sport peut être vécu comme une résilience ? Et ça, je trouve que c'est intéressant de le voir, parce qu'on parle beaucoup de thérapie, peut-être parfois de développement personnel, de se faire suivre d'un travail. Mais je le rappelle toujours, et je le dis dans mon livre, dans mon dernier livre, j'étais allée voir un médecin psychiatre, j'étais épuisée physiquement il y a une quinzaine d'années, parce que j'avais monté une start-up et c'était difficile, etc. Et la première chose qui m'a dit, c'est qu'il faut d'abord remonter le corps.
Remonter le corps, oui.
Avant de, donc, je l'ai déjà partagé, mais c'est vraiment cette idée que c'est dur de se mettre en mouvement, mais que le mouvement peut entraîner, bah, justement, par son essence même, tellement de choses, en fait, en cascade.
Et en santé mentale. Et là, évidemment, il faut renvoyer tout le monde, comme je le fais, moi, quasiment chaque semaine, vers l'épisode avec le docteur Éric Griez,
voilà.
Médecin psychiatre que tu as interviewé sur les liens entre marche et santé mentale.
Alors, je peux même retrouver le numéro d'épisode. Sinon, vous tapez Éric Griez, métamorphose, et vous allez retomber. Je l'ai marqué dans mon document. Mais
numéro 354, je crois.
Et ben voilà, t'as le bon numéro, t'as gagné au loto. C'est exactement. Il s'appelait comment ? Je crois que t'as le titre.
La marche-thérapie contre le stress.
Très bien. Donc, c'est exactement ça. Alors, peut-être on peut justement faire le pont et parler de la marche. Rappeler les épisodes de la marche. Alors, la marche, les bénéfices qui sont reconnus par des études et par la science. La marche renforce le squelette. Donc, on parlait des personnes âgées tout à l'heure. Chez les femmes, on sait qu'il y a aussi des risques d'ostéoporose.
Oui.
Deux, contribue à la santé mentale, diminution de l'anxiété. Parce que ça nous permet de diffuser les hormones du bonheur. Donc, il y a la dopamine, mais aussi peut-être la noradrénaline, c'est ça ? Tout un tas de cocktails hormonaux, en fait. Elle contribue aux fonctions cognitives, on l'a dit tout à l'heure, la mémoire, la créativité. Elle aide à la digestion. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de médecins qui le disent. Je pense aussi à Glucose Goddess, Jessine Chauspé, qui dit « marcher 10 minutes, 15 minutes ». Le docteur Yann Rougier est venu le rappeler en fait, dans un épisode. Si on va marcher entre 10 à 20 minutes après chaque repas, on diminue un certain nombre de risques. Et puis, cinquième, évidemment, elle allonge l'espérance de vie. On peut gagner jusqu'à, je crois, 7 ans de vie si on marche régulièrement. Ça, c'est les études sur les 10 000 pas par jour. D'ailleurs, les 10 000 pas par jour, t'en penses quoi, toi ?
Ah, je trouve ça génial. Je pense qu'on peut même aller plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Moi, j'ai fait des tests dans mes journées de travail. J'ai réussi à monter à 24 000 pas sur une journée de travail en faisant...
Ça fait à peu près une quinzaine de kilomètres,
quatre réunions d'une heure en marchant. Et là, il y a un vrai sujet sur...
En marchant vite, alors ?
En marchant assez vite, il y a un vrai sujet sur les technologies. Là, vous pouvez tous faire l'exercice. Quelles sont les technologies qui m'enferment et celles qui m'ouvrent vers le monde extérieur ? La technologie du fil d'actualité sur un réseau social m'enferme complètement. Je peux passer des heures et des heures à scroller, comme tu dis, c'est tout à l'heure. Mais la technologie des écouteurs qui me permet de marcher tout en écoutant un podcast. Moi, j'écoute une quantité de podcasts hallucinante, mais je suis en train de marcher. Et ça, je trouve ça fantastique. C'est absolument magnifique. Ça, c'est une technologie que je valide. La technologie des écouteurs qui me permet aussi de passer des appels en marchant, je la valide également. Donc oui, on peut faire plein de choses en marchant. Ne nous en privons pas et essayons d'avoir un regard nuancé sur la technologie et de se poser la question à chaque fois, est-ce que cette technologie me sédentarise ou est-ce qu'elle peut me permettre d'être plus en mouvement ?
Oui, d'ailleurs, le médecin Éric Griez, hein, que tu citais, qui est médecin psychiatre, hein, qui a fait des études sur le lien entre marche et dépression, où on voit vraiment des résultats extraordinaires pour des gens qui se sont mis en mouvement, qui n'allaient pas bien, il recommande quand même la montre connectée. Parce que là, il faut faire attention, parce que ne pas tomber effectivement dans ce qu'on disait tout à l'heure, la performance coûte que coûte, j'ai pas fait mes 10 000 pas par jour, ou mes 7 000, ou mes 5 000, etc. Et je m'auto-flagelle, mais en même temps, ça donne un objectif et c'est aussi assez gratifiant.
Ouais.
Parce que quand on l'a fait, on se dit, c'est cool, en fait, je suis fière de moi. Donc, c'est bien de se fixer quand même des objectifs.
Ça peut beaucoup aider au début.
Oui.
Je pense que ça, j'en suis certain. Moi, la seule mise en garde que je mettrais, c'est si vous utilisez une montre connectée depuis 6 mois, 1 an, 1 an et demi, vous avez pris l'habitude de marcher et vous avez l'impression que vous vous êtes tombé dans une forme un peu d'obsession de regarder constamment votre nombre de pas, c'est peut-être le moment de tester une autre approche où vous allez conserver la marche, mais vous allez compléter avec une autre activité. Sans jamais lâcher la marche, évidemment. D'ailleurs, la marche qu'on peut faire avec un JLST, ce qui est moi une de mes dernières passions dont je ne me lasse pas.
Alors, il l'a dit un peu vite, il parle d'un gilet lesté.
Oui.
Parce qu'on pourrait, on a entendu gilet lesté, on pourrait croire que c'est un mot, tu sais. Alors, qu'est-ce que c'est le gilet lesté? On t'a vu en photo sur les réseaux sociaux avec ton gilet.
Ouais. Bah, c'est un gilet où vous pouvez ajouter du poids. Donc, par exemple, 10 kilos. Moi, c'est ce que je fais. J'ajoute 10 kilos, 5 kilos devant sur la poitrine, 5 kilos sur le dos. Et ça permet du coup d'avoir le poids qui est réparti de manière très équitable sur l'avant et l'arrière du corps, et de marcher tout en portant ce poids, ce qui va du coup faire travailler certains muscles, faire travailler le souffle évidemment, et se traduire par ce mélange de souffrance et de plaisir fantastique, à mon sens.
Alors, c'est ce que font naturellement les randonneurs quand ils partent pour plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et quand tu fais de la rando, tu as toujours un sac qui est bien garni. D'ailleurs, parfois, tu prends même celui des autres.
Et moi, j'adore cette pratique qui consiste à marcher avec un poids. Même quand je me déplace sur Paris, je charge mon sac volontairement avec des choses qui pourraient rester à la maison parce que j'aime... J'aime sentir ça. Alors après, il faut avoir un bon sac à dos.
Un bon sac à dos, et puis tu pratiques cet art du cirque qui fait que tu es quand même très musclé du haut.
Mais, mais après, la magie des gilets lestés, c'est qu'on peut augmenter progressivement la charge. On peut commencer avec 2 kilos, puis 3 kilos, puis 4 kilos. Je connais des personnes qui marchent avec 25 kilos sur le dos. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, il faut évidemment toujours y aller progressivement. Mais ce qu'on raconte ici me fait beaucoup penser à des épisodes que tu avais fait sur Métamorphose, sur le froid, l'exposition au froid.
Alors, ouais,
les niveaux de stress.
Absolument. Parce que je me suis dit quand même, quand on réfléchissait à cette interview, que pour des personnes qui nous écouteraient et qui se disent « mais moi, j'ai pas la motivation », j'ai pas trop de temps. On va parler du temps quand même, du temps et du mouvement. Parce que ça, c'est quand même aussi un vrai sujet. Comment je place le mouvement dans mon quotidien? Mais je trouve que le froid, puisque j'ai fait cet épisode avec Wim Hof il n'y a pas très longtemps, dans Métamorphose, sans parler d'aller dans le bain glacé, voilà, qui peut paraître un peu extrême, comment le froid peut m'aider à me remettre en mouvement? Ça peut être simplement une douche froide. Au départ, on commence par les jambes. Ne serait-ce que les jambes, après ça peut être les fesses, le ventre, etc. On monte peut-être progressivement, la première semaine on fait que le bas du corps, mais ça peut être aussi les bains dérivatifs. Alors les bains dérivatifs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait un épisode complet avec France Guilin sur le sujet, ce sont des poches de gel. On revient, les bains dérivatifs, ça a été inventé par un Allemand qui s'appelait Louis Kuhn, et c'était plutôt des bains de siège. Maintenant, avec France Guilin, la méthode France Guilin, c'est très pratique. Ce sont des poches de gel froide qu'on met dans l'entrejambe. Alors, dit comme ça, ça ne fait pas forcément très glamour, mais c'est d'une efficacité redoutable. Pourquoi? Parce que ça va faire bouger ce qu'on appelle les graisses brunes. Et les graisses brunes, ils ont découvert, je crois que c'est à Harvard, mais France, si elle était là, me corrigerait certainement. Ils sont en train de se dire que c'est un organe. Ces graisses brunes sont un organe positif à part entière, et quand ils se mettent en mouvement, permet en fait à tous les fascias, cette motilité des fascias, de se remettre en route. Bon, alors là, je vais peut-être un peu loin dans l'explication, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que le froid permet cette motilité intérieure qui permet la motivation, qui permet de se remettre en mouvement. Ouais. Voilà, tout ça pour dire ça.
Et créer du bon stress.
Oui. Le stress hormétique, hein, le stress positif.
Exactement, la fameuse loi de l'hormèse.
C'est ça.
Et c'est la sédentarité, c'est l'anti-stress. C'est mettre son corps dans une sorte de fausse situation de confort toute la journée. Je dors, je m'allonge sur le canapé, je reste en position assise. Je ne mets plus jamais mon corps en situation de stress, et donc il perd en capacité physiologique. Il est moins résistant aux maladies, aux virus, à ce qui traîne dans l'air. Et donc le remettre en mouvement, l'exposer au froid ou faire les deux. Hein, d'ailleurs, tout ça peut être...
Tout est bon.
Tout ça peut être très bon et combiné. Va être un changement plus que souhaitable.
Alors, chez Wim Hof, ça va aussi avec les exercices de respiration qui sont intéressants pour le mouvement, pour une pratique aussi. Ça aide beaucoup des pratiques corporelles, des pratiques physiques. D'ailleurs, il aide des athlètes à s'entraîner grâce aussi à la respiration améliorée.
Et on retrouve ce lien entre mouvement et souffle dans beaucoup de spiritualité asiatique. Mmh. Et là-dessus, moi, chacun choisit ce en quoi il a envie de croire, évidemment. Mais j'invite quand même.
Croire ou d'expérimenter, parce qu'il ne s'agit pas de croire.
Exactement.
Mais voilà, quand on passe à la pratique, on voit si ça a de l'effet sur soi ou pas.
Exactement. Et je pense qu'on peut tous faire l'expérience d'un cours de Qigong, d'un cours de Tai Chi, ou d'un cours de Wu Tao, pour ressentir ces exercices de connexion entre souffle et mouvement.
Ça, c'est intéressant. Alors, peut-être pour finir, on approche de la fin de ce podcast, mais il y aurait tant à dire, cher Alexandre. Comment est-ce qu'on place ça dans notre quotidien? On en a un petit peu parlé. Moi, je m'aperçois que plus je fais des missions de métamorphose, parce que vous adorez les émissions de métamorphose, mais plus j'en enregistre, moins j'ai quand même de temps pour une activité, une pratique corporelle personnelle. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui sont, peut-être si vous êtes thérapeute, vous avez une profession libérale, ben, vous êtes très pris par votre métier. Et vous dites, ils sont bien gentils les deux cocos là, mais moi, je n'ai pas forcément le temps, tout simplement, entre mes enfants, mon métier, ma vie de famille, le temps que je passe dans les transports, eh ben, j'ai du mal à le placer en dehors du week-end ou une fois par semaine. Ce qui peut être une réalité.
Non, évidemment. Évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution unique. Moi, je propose à tout le monde de repartir de cette catégorisation de son temps entre travail, loisirs, moments en famille, moments entre amis, moments de commerce, transport, voilà, les grandes catégories qui peuvent composer notre journée.
Moments de commerce, c'est faire ses courses, etc.
Exactement.
Oui.
Aller faire des achats. Une fois que j'ai toutes ces catégories en tête, où est-ce que je peux mettre du mouvement? Est-ce que je peux en mettre dans mes loisirs? Sûrement. Est-ce que je peux en mettre avec mes enfants? Sûrement. D'ailleurs, les mamans sont souvent moins sédentaires que les papas parce qu'elles bougent, elles portent les bébés, elles font des squats. C'est la fameuse habitude des mamans de faire des squats pour endormir les bébés quand ils crient.
En sautille, oui.
Ouais, c'est une magnifique... magnifique.
Oh, il y a des papas kangourous aussi. Hein.
Il y a des papas kangourous aussi, on les salue. dans mon travail, évidemment que c'est compliqué, ça dépend de plein de choses, ça dépend du type de travail, ça dépend des bureaux, ça dépend de plein de choses, mais avoir le réflexe de questionner, avoir le réflexe de proposer. J'ai des réunions avec des collaborateurs, je suis employé dans une entreprise, est-ce que ces réunions doivent se faire en étant assis? Est-ce qu'on peut les faire en marchant? Très souvent, oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre des notes? Pas forcément. Avec mes clients.
Sachant qu'on peut aussi enregistrer.
On peut enregistrer. Avec mes clients, alors là, ça va dépendre beaucoup de l'activité que j'ai. Mais moi, je commence à avoir de plus en plus de consultants faire leurs réunions avec certains clients en marchant. Je commence à avoir des thérapeutes marcher avec leurs patients. Donc voilà, je peux interroger ça, je peux questionner les personnes avec lesquelles je travaille, mes fournisseurs, mes associés, etc. Donc c'est une exploration, ça se fait pas à pas, et on n'est pas obligé de passer de 2000 pas par jour à 20 000 pas par jour d'une semaine à l'autre, simplement viser des petites améliorations, des effets cumulés de semaine en semaine.
Je crois qu'il faut être à minimum, je crois que c'est à 150 minutes par semaine. Il faudrait qu'on retrouve les chiffres exacts. On les a notés pour le début de cette émission.
Et le 10 000 pas par jour de l'OMS.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bien peut-être de rappeler quelques... Donc 150 minutes, ça fait à peu près, disons, si on arrondit supérieur, ça fait à peu près 3 heures quand même d'activité physique par semaine.
Et on peut installer des choses...
Minimum.
Chez soi, dans son appartement, dans sa maison, une barre de traction.
Un tapis de yoga.
Un tapis de yoga, absolument. Essayer de mettre ces équipements à des endroits stratégiques. J'entre dans la maison, hop, je vois quelque chose qui me donne envie de faire du mouvement, je sors de la maison, j'arrive dans ma salle de bain, une barre de traction, je prends l'habitude d'en faire trois, je tire quelque chose, je pousse autre chose. On commence à avoir des cabinets d'architecture spécialisés dans la réintroduction du mouvement dans nos lieux de vie. Alors ça, il y a un cabinet que je suis au Canada notamment, qui va très très loin. Et par exemple, ils adorent mettre sous les escaliers dans les maisons des blocs que vous trouvez dans les salles d'escalade, de sorte à ce que tu puisses monter les escaliers avec tes marches ou alors tu vas grimper avec les mains. Ils installent des sortes de systèmes de tyroliennes au sein des salons. Enfin, oui, ça, évidemment, c'est des concepts qu'on ne peut pas tous installer chez soi. Mais la démarche, je trouve, est très intéressante.
Ne serait-ce que la barre pour s'étirer entre deux portes.
Exactement.
Qui peut être assez facile à mettre.
Absolument. Même si on n'a pas envie ou si on n'arrive pas à faire une traction, simplement se pendre par les mains est excellent pour le dos.
Voilà, exactement. Ça enlève toutes les douleurs. Alors, nous, on milite beaucoup, tous les deux. On va faire un petit tour du côté des Grecs pour la réhabilitation des écoles
péripapéticiennes.
Péripapéticiennes des Grecs, inventées par Aristote dans la suite de Platon. C'était Platon ou Aristote? Je crois que c'est Aristote.
Aristote, oui.
Qui a créé ces écoles. Donc, c'est Aristote, inspiré évidemment par Socrate avant. Socrate, qui, je le rappelle, bougeait dans Athènes. Son école était aussi une école quelque part en mouvement. J'en ai discuté dans un épisode assez récent avec Éric Emmanuel Schmitt. Et c'est pas idiot, parce que finalement, on voit que l'homme, en fait, on essaie toujours de réinventer la roue, mais il y a des choses qu'on sait depuis longtemps. De toute façon, on est des homo sapiens, on est des chasseurs-cueilleurs. Et donc, toutes ces discussions, tout cet échange avec l'autre dans la vie en général, que ce soit pour de la thérapie, pour du plaisir, pour la famille, pour son travail, se passait en fait à l'origine en mouvement. Nous étions des nomades.
Et complètement, c'est super que tu parles de ces philosophes grecs qui effectivement enseignaient en se déplaçant, en marchant. Et d'ailleurs, j'ai récemment eu l'occasion d'aller en Italie pour la première fois à Rome et de voir la fameuse fresque qui présente Aristote et Platon, si je ne dis pas de bêtises, en train de marcher. Et autour d'eux, il y a plein d'autres philosophes qui sont à l'arrêt. Ils sont assis. Et eux, Aristote et Platon, se déplacent. Il y en a un qui pointe le ciel, l'autre qui pointe la terre. Et la fresque souligne ici à quel point le dynamisme et la qualité de leur pensée est lié à leur mouvement. C'est drôle de voir que ça remonte aux origines de notre humanité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument saluer le mouvement des écoles de la forêt qui existent en France, inspiré des forest schools, donc des écoles où les enfants sont en pleine nature, invités à se déplacer, à bouger, au lieu que d'être assis 8 heures par jour devant un tableau noir.
Exactement. Je regarde un peu si on a d'autres sujets qu'on voulait passer en revue. On en a parlé, aménager son environnement pour favoriser le mouvement. Ça peut être en nous écoutant tout simplement de prendre la décision de dire « Eh ben, je vais descendre peut-être 3 stations de métro avant et je vais commencer par là, la théorie des petits pas, le Kaizen. Finalement, peut-être qu'une fois par semaine, au lieu d'y aller en voiture, j'irai à vélo. Ce sera peut-être long, je mettrai peut-être une heure, mais j'irai à vélo. » Je repense à ma cousine et son amie qui, en Angleterre, habitait à Londres, ne trouvait pas le temps de faire du sport parce qu'elle était trop prise par son travail. Elle faisait 1h15 de vélo aller, 1h15 de vélo retour dans Londres. Alors effectivement, on ne respire pas forcément un air extraordinaire. Elle mettait un masque. N'empêche qu'elle faisait ses 2h30 de sport quotidien.
C'est très bien.
Voilà, et de vélo qui est quand même aussi assez complet, assez doux. Alors après, il ne faut pas se prendre une voiture, il faut faire attention quand on est dans un environnement urbain. Mais peut-être de prendre cette décision. Tu vois, même nous, en nous écoutant, ça me donne envie de faire plus, encore plus. parce que je sais que c'est aussi plus de plaisir. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut retrouver cette motivation. Tu vois, là, on se remotive en parlant. Mmh. J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a peut-être remobilisé. D'ailleurs, ce serait génial si ça vous a remobilisé ou si vous vous êtes remis au mouvement ou si vous adorez ça au quotidien, de nous partager tous vos secrets, vos astuces, vos tips comme ça du mouvement dans le quotidien, ce que vous faites. Ce qui a peut-être aussi changé, modifié votre vie à travers la pratique de quelque chose. Ce serait vraiment intéressant qu'on ait vos témoignages. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook. Voilà, tous nos réseaux sont ouverts à ça.
Ouais, mettez-nous des photos. Et je trouve que l'exemple que
tu donnes...
Ah, les photos,
trop sympa.
Ouais, c'est super sympa de voir des gens en mouvement.
Ouais.
L'exemple que tu donnes peut aussi nous inspirer un dernier mot en conclusion. Le vélo, 2h30 par jour, c'est génial. Effectivement, c'est d'autant plus génial qu'on va vivre dans une ville comme Amsterdam où tout est pensé pour les vélos, par exemple. Quand on va à Amsterdam, aux Pays-Bas, c'est incroyable. On a des vélos partout. Copenhague, au Danemark, est aussi assez impressionnante. Donc, on n'en a pas parlé dans cet épisode parce que l'idée est surtout de voir ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau individuel. Mais il y a aussi un niveau collectif du mouvement à interroger. Il y a les politiques publiques autour du mouvement à interroger. Il y a ce qu'on peut faire aussi à un échelon local, dans son village, dans sa commune, dans des associations. Donc voilà, essayez peut-être d'avoir aussi ça en tête. Comment je peux créer, participer, contribuer à une dynamique collective autour du mouvement ? Il y a un reportage fantastique sur Netflix sur les zones bleues, ces zones où les personnes âgées vivent très longtemps. Et notamment, on peut voir qu'à Singapour, en Asie, il y a une politique de longévité incroyable qui se traduit par l'obligation pour les promoteurs immobiliers, quand ils créent des immeubles, d'installer devant des barres de traction, balançoires, et tout un tas d'équipements permettant aux personnes qui vivent dans les immeubles, de descendre et d'avoir accès à plein de choses pour bouger, s'étirer, renforcer leurs muscles.
Parce qu'on ne dira jamais assez quand même, le secret c'est de rester en mouvement toute sa vie. Hein. Ça on n'y coupera pas, donc il faut autant s'y mettre, je dirais tout de suite. Je salue ma commune au passage, qui l'a fait en Suisse, qui pendant je crois presque 2 mois permet à tous ses habitants de découvrir une activité de mouvement par jour, gratuitement. Pour les petits, les moyens, les grands, les seniors, quels que soient les âges, différentes activités. Je trouve que ce genre d'initiative, puisque tu parlais de la collectivité, est très importante. Et je me souviens aussi de mon amie Barbara Meyer, qui avait un métier dans la communication et qui, aux alentours de la trentaine, a décidé de reprendre des études pour devenir prof de sport. Et qui, dans sa commune, avait lancé, c'était à Rueil-Malmaison, je crois, le pédibus. Okay. Pour que les enfants aillent à pied à l'école. Donc, c'était des parents qui, à tour de rôle, disait « on se retrouve à tel point » et un ou deux parents emmènent un petit groupe de 5-6 enfants à pied à l'école tous les matins plutôt que de monter dans un car scolaire ou d'y aller en voiture, etc. Donc, ça sont de très belles initiatives qui sont à démultiplier évidemment partout.
Ah, c'est génial, vraiment. Ouais.
J'ai publié son livre sur comment mettre plus de sport dans son quotidien aux éditions Erol, dont le titre m'échappe là tout de suite, puisque je me suis, comme vous l'avez compris, perdue dans mes feuilles. Mais on mettra la ressource
en lien en description
de l'épisode. C'est comment rajouter 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes chaque jour. Et comme ça, elle vous fait monter pendant 21 jours progressivement pour réintroduire du sport dans le quotidien. Donc je la remercie pour cet ouvrage qui est assez sympathique. Merci infiniment, en tout cas, Alex.
Merci à toi et bon mouvement à toutes et à tous.
Alors, je rappelle que maintenant, les épisodes des Conversations du Scarabée sont le dimanche, un dimanche par mois. Donc, si vous avez envie de nous écouter ou nous réécouter, on est déjà, je crois, à 12 épisodes, Alex.
Pas mal, ça avance. Ouais. Ça tient bon.
À bientôt. On se retrouve très vite.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com.
Métamorphose.
Le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Charlie Hebb.
Vous n'osez pas aller vers les autres ? Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile ? Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
« Deviens un aimant social » de Charlie Hebb, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.